affinités électives. Une émission proposée par Canal Academy.
Merci de votre fidélité. Notre émission de ce jour va nous mener dans une contrée où la lettre R roule comme l'orage. Une région que notre invité de ce jour décrit comme truculente, généreuse, pleine de bon sens, de franchise. Une région qui a aussi été l'un des foyers les plus brillants de la chrétienté occidentale. Une région où le mot Bordeaux se prononce à voix basse et où les vins ne portent pas des noms de châteaux. Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'ajouter des indices. Nous allons nous rendre en Bourgogne et nous allons nous y rendre avec le meilleur des guides puisque nous avons la chance de recevoir dans notre studio Jean-Robert Pitt. Jean-Robert Pitt, bonjour.
Bonjour, bonjour, comme on dit en Bourgogne.
Jean-Robert Pitt, vous êtes professeur de géographie, ancien président de l'université Paris-Sorbonne, président de Canal Academy, vous êtes donc ici chez vous, d'autant que vous êtes également membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Vous avez écrit de nombreux ouvrages sur le paysage, sur la gastronomie et les vins, mais peut-être est-ce un petit peu la même chose. Autant de passions, en tout cas, qui irriguent votre dictionnaire amoureux de la Bourgogne que vous venez de publier aux éditions Plon. Et puisqu'il s'agit d'amour, et que vous nous précisez dès les premières lignes de votre dictionnaire que vous n'êtes pas né en Bourgogne, ni probablement aucun de vos ancêtres, il s'agit donc bien d'amour et d'affinité élective. Puis-je vous poser cette question indiscrète ? Quand est né cet amour ?
Ah, c'est né très précisément, j'ai le souvenir vraiment très vif dans ma mémoire de ce moment. C'est né au cours de vendanges que j'appellerais initiatiques en 1966, donc j'avais, pour ne rien vous cacher, 17 ans. Et j'ai découvert ce monde, donc on buvait du vin à la maison, mais j'ai découvert ce monde de la vigne et du vin et la Bourgogne, c'est-à-dire une Bourgogne rurale profonde. C'était chez des vignerons plutôt modestes, hein, dans un petit village près de Beaune qui s'appelle Chorey-les-Beaunes. Et c'est trois semaines, puisque je crois que je suis resté trois semaines en allant chez, en remontant dans les Hautes-Côtes, trois semaines de vendange m'ont marqué à tout jamais. Et donc je suis toujours revenu en Bourgogne avec un immense plaisir. J'y ai habité en tant que résident secondaire pendant une quinzaine d'années. Ça n'est plus le cas maintenant, mais en tout cas, je me sens vraiment chez moi. Et comme je suis un chaud partisan du droit du sol, qui se mérite, ce n'est pas quelque chose qui est acquis comme ça, mais enfin, du droit du sol et non pas du droit du sang, donc je me sens pleinement bourguignon de cœur.
Très bien, Rémi. Écoutez, nous allons nous promener dans cette Bourgogne, en même temps que nous promenons dans votre dictionnaire, en picorant ici ou là au fil des lettres, et puisque on peut lire aussi ce dictionnaire de façon un petit peu conformiste, en commençant par la lettre A pour terminer à la lettre Y, puisque ça se termine par Y comme Yon.
Oui. J'ai pas trouvé d'entrée pour Z. Donc y a
par
pas
contre,
Z.
Pour A, il y avait l'embarras du choix. D'ailleurs, on y trouve A comme, j'allais dire Auxerre, j'allais me faire gronder d'emblée, Auxerre.
Auxerre.
Auxerre, A comme aligoté bien sûr, mais on va peut-être l'écarter pour nous concentrer plus tard sur de meilleurs flacons.
Autun. Il y a de bons aligotés, attendez. Oui. En particulier le Bouzeron, qui est la seule appellation village de France dont le cépage de base est l'aligoté. Voilà.
Mais écoutez, finalement, on va peut-être passer sur l'aligoté. Autun, la fameuse petite Rome, ce qui aurait été l'occasion d'évoquer Talleyrand qui en fut l'évêque. Mais finalement, si vous me le permettez, j'ai choisi.
Pas très longtemps.
Pas très assidu et pas très concentré sur sa tâche.
Non.
Mais finalement, j'ai choisi d'évacuer d'emblée la question qui fâche, le A d'Alésia, car pour vous, il n'y a plus de doute. Alésia s'est bien produit et on sait où il se trouve, en Bourgogne.
Oui, non, je pense que ça fait longtemps qu'il n'y a plus aucun doute possible, même s'il y a toujours des petites associations, quelques chercheurs qui ont jeté leur dévolu sur d'autres localités, en Franche-Comté en particulier, à la Chaux de Crotenay. Il ne fait plus aucun doute maintenant, compte tenu des fouilles qui ont été réalisées, que Alésia correspond au plateau qui se situe au-dessus de la commune d'Elôme et d'Alise-Sainte-Reine. Alise-Sainte-Reine est d'ailleurs un toponyme qui est directement héritier d'Alésia. Donc, compte tenu des objets qu'on a trouvés, des traces de fortifications, etc., il n'y a vraiment plus aucun doute. Il y a suffisamment de publications, de chercheurs sérieux qui, maintenant, ont bien fouillé à Alésia. Il y a encore des fouilles à faire. On trouvera certainement encore d'autres choses dans les décennies qui viennent. Fouilles qui ont commencé sous Napoléon III. Et Napoléon III qui a tenu à marquer ce site d'une immense statue de Vercingétorix, qui est un Vercingétorix réinventé avec ses bacchantes pendantes et un costume un peu fantaisiste. Mais enfin, en tout cas, c'est le moment où Vercingétorix est érigé en tant que héros national, au même plan que Jeanne d'Arc et que quelques autres. Donc c'est, la Troisième République reprendra d'ailleurs ce panthéon de hautes figures de l'histoire de France.
Qui l'avantage personnellement, de ne pas être ni un saint ni un roi.
Voilà, personnellement, je ne suis pas un grand enthousiaste de Vercingétorix.
Oui, parce que de surcroît, vous nous expliquez que Alésia, qui est une défaite, est plutôt une bonne nouvelle.
Pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que je pense que cette résistance, entre guillemets, des Gaulois était un combat d'arrière-garde et que ça aurait été mieux que l'ensemble de la Gaule rentre dans le giron romain bien plus tôt, en même temps que la province, c'est-à-dire la région qui aujourd'hui correspond à une partie de la Provence et du Languedoc, qui est entrée au IIe siècle avant Jésus-Christ. Ça aurait été bien mieux que l'ensemble des Gaules sortent de la barbarie. Vous savez, la barbarie, c'est ne pas parler grec, mais enfin, en tout cas, de cette vie en société qu'on idéalise et que les Français ont volontiers tendance à idéaliser, lisez Astérix par exemple, mais qui est une pure vue de l'esprit. La Gaule s'est magnifiquement transformée dès la conquête de Jules César et très rapidement. Se couvrant de voies romaines, l'agriculture a énormément progressé, l'architecture, les arts, enfin les Gaulois ont pu s'exprimer par écrit. Il y avait quelques Gaulois qui écrivaient en grec, mais enfin avec l'arrivée du latin, tout le monde a pu écrire. Et une culture orale ne se transmet pas bien. Enfin, elle se transmet bien sûr. Hein. Vous connaissez la phrase, le proverbe africain d'Amadou Ampateba, on est loin de la Bourgogne, mais ça reste un peu en Afrique. Beaucoup de gens pensent que ce proverbe est merveilleux. Quand on dit un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle, je dis laissons les vieillards mourir en paix et construisons des bibliothèques. Et pour les Gaulois, c'est un peu la même chose. On idéalise Astérix, a particulièrement idéalisé depuis 40 ans maintenant, ou 50 ans. Ce monde de Gaulois résistant à Rome, c'est une absurdité historique totale.
C'est un mythe patriotique.
Oui, mais mal placé. Mal placé parce que Rome a respecté l'ensemble des cultures, des religions. Rome a apporté son panthéon de dieux, mais les dieux gaulois ont continué à être vénérés exactement comme auparavant. Rome est extrêmement tolérant de ce point de vue-là, comme sur bien d'autres points de vue. Rome, c'est finalement l'origine finale de ce que j'évoquais tout à l'heure, le droit du sol. Rome, c'est vraiment le droit du sol. Celui qui est citoyen romain, il garde sa culture et il pratique les identités emboîtées, un peu comme les poupées russes, si vous voulez, où on peut être très bien Lingon, qui est une des tribus gauloises de la région, ou Éduin, une des grandes tribus gauloises de la Bourgogne. Puis on peut se sentir gaulois, gallo-romain, romain à part entière, on peut devenir empereur, tout ça, tout est possible. Ce que finalement le christianisme a entériné aussi, hein, en supprimant toute référence aux origines raciales. Quand on dit quand saint Paul dit il n'y a plus ni juif, ni juif, ni homme, ni femme, etc., vous êtes tous un. Dans le Christ, c'est une tradition qui est très conforme à celle de Rome et qui d'ailleurs se sont bien conjuguées et qui a abouti à cette belle tradition française. Devient français celui qui veut devenir français, quelles que soient ses origines ethniques et la composition de son sang et la couleur de sa peau. Cela dit, ça implique des devoirs. C'est pas un droit comme ça, qui n'implique aucune contrepartie, ça implique de le vouloir, de faire des efforts pour apprendre la langue, pour être. Ce que les Bourguignons ont parfaitement, les Gaulois de Bourgogne ont parfaitement fait lorsqu'ils sont devenus romains, en particulier les Éduins. Et d'ailleurs, pour les récompenser d'avoir été si actifs dans ce domaine-là, on leur a construit une magnifique capitale qui est la ville d'Autun.
La petite Rome, non.
La petite Rome, avec des monuments splendides dont il ne reste pas grand-chose, mais qui a été une ville éblouissante à l'époque romaine.
Vous vous rappelez également que les Gaulois, dès avant la conquête romaine, étaient de grands consommateurs de vin, mais que cette conquête leur a permis d'apprendre à le faire et d'obtenir le droit aussi de le faire.
Bah, ils auraient pu avoir le droit, mais le problème, c'est qu'ils ne savaient pas le faire, mais ils en étaient très amoureux. C'est-à-dire qu'au quotidien, ils buvaient de la cervoise ou de l'hydromel, qui sont des boissons qu'on trouve dans tout le monde barbare, qu'on trouve dans le monde germanique, dans le monde slave à cette époque. Donc, c'est-à-dire une boisson fermentée à base de céréales, orge ou blé ou n'importe quelle autre céréale, et à base de miel, dilué dans l'eau. Mais le vin, déjà, 5 siècles avant Jésus-Christ, on le voit quand on voit le nombre d'objets dans la tombe de Vix qui tournent autour du vin, le vin était très apprécié de l'aristocratie, est une boisson très chère à importer, arrivée par la vallée du Rhône, puis la vallée de la Saône, etc., remontant jusque dans des régions très septentrionales. On vient encore de découvrir aux frontières de la Bourgogne, mais en Champagne, près de Troyes, une magnifique tombe avec des objets liés au vin extraordinaires, entre autres un grand cratère de bronze, comme celui de Vix. Et tout ça servait donc à la consommation du vin dans les milieux les milieux dirigeants de la société gauloise, de la société celtique. Mais dès que les Gaulois sont devenus romains, dès la conquête, ils ont appris à cultiver la vigne et on en a planté partout, au point qu'il a fallu un peu limiter les plantations parce que la production de céréalière devenait insuffisante. Et donc, l'édit de Domitien interdit aux Gaulois de planter de nouvelles vignes et il faut attendre un siècle, l'édit de Probus, pour que à nouveau, on leur permette. Et les Gaulois ont toujours été, comme leurs descendants que nous sommes, toujours été de très très grands amateurs de vin, avec de temps en temps un excès dans la consommation de vin, il faut bien le reconnaître. Alors surtout à l'époque barbare, enfin à l'époque antérieure à la conquête, de la Gaule chevelue, comme on dit, où ils avaient tendance à s'enivrer parce qu'ils buvaient le vin pur aussi. Les habitants du bassin méditerranéen, à cette époque, dans l'Antiquité, donc les Grecs, les Romains, les Phéniciens, boivent le vin coupé d'eau. Donc, pour s'enivrer, il faut en boire plus ou plus longtemps. Vous voyez le banquet de Platon, c'est dans le courant de la nuit que finalement les participants à ce banquet perdent un peu la tête et s'endorment et s'écroulent, même pour certains. Seul Socrate reste l'esprit clair jusqu'à la fin de la nuit. Mais on boit le vin coupé d'eau. Donc, pour arriver à s'enivrer avec du vin coupé d'eau, il faut en boire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais quand vous buvez du vin pur, surtout si c'est du vin qui fait 14 degrés, ça peut aller très vite.
Il y a autre chose qui nous rapproche de nos lointains ancêtres gaulois, l'amour du vin aussi, mais aussi celui des querelles intestines. Il y a dans votre dictionnaire amoureux une notice consacrée à Bordeaux, dont je rappelais que le nom ne peut être prononcé qu'à voix basse en Bourgogne.
Qu'à voix basse, oui, c'est ça. Alors, effectivement, il y a une vieille querelle. J'avais écrit il y a quelques années un livre qui s'appelait Bordeaux-Bourgogne, les passions rivales. C'est vrai qu'il est une tradition, quand on est en Bourgogne, de critiquer les vins de Bordeaux et quand on est à Bordeaux, de critiquer les vins de Bourgogne, qui sont des vins totalement différents. Donc moi, je dis...
Oui, ce ne sont pas que des postures.
Non, ce ne sont pas que des postures. Je crois que ça repose sur des vins qui sont de nature totalement différentes, qu'on ne peut pas vraiment comparer. Enfin, c'est intéressant de les comparer, mais ils sont très contrastés. Et derrière, il y a aussi des différences dans la société, dans la culture des Bourguignons et des Bordelais. Bordeaux, c'est une ville dont le vignoble est aussi ancien que celui de Bourgogne. Hein. Le vignoble bordelais date de l'Antiquité. Ozone avait un domaine avec des vignes près de Saint-Émilion. Donc il y avait un vignoble bordelais, mais la grande croissance du vignoble, alors après le haut Moyen-Âge, après la période des invasions, la grande croissance est liée à l'appel d'un marché extérieur, qui est le marché de l'Europe du Nord. C'est le marché anglais, surtout après le mariage d'Aliénor d'Aquitaine avec Henri II Plantagenet. C'est le marché allemand, c'est le marché néerlandais, c'est le marché des villes de la Hanse, c'est le marché même scandinave. Donc là, on a fait des vins pour l'exportation. Tandis qu'en Bourgogne, on a fait des vins aussi, enfin d'abord pour la Bourgogne elle-même, mais pour une exportation terrestre et très différente, puisque le vignoble bourguignon a connu sa première grande croissance et surtout sa première accession à la haute qualité pendant la période du Grand-Duché de Bourgogne, donc fin du Moyen-Âge, où là, le vin de Bourgogne est apprécié dans l'ensemble du duché, donc depuis les frontières de Lyon jusque aux Flandres, jusque dans les Flandres. Mais il est exporté par voie de terre, par exemple jusqu'en Avignon. On pense toujours que les papes buvaient du Châteauneuf du Pape. Non, le Châteauneuf du Pape n'existait pas à l'époque. La ville de Châteauneuf existait, le château aussi, mais on ne faisait pas de bon vin à Châteauneuf du Pape à l'époque des papes. Les papes buvaient du vin de Bourgogne au point que lorsqu'ils repartent vers Rome, il y a un pape qui se plaint en disant « Hélas, je n'aurai plus le bon vin de Bourgogne » et l'abbé de Citeaux lui envoie des barriques de vin du Clos de Vougeot pour le consoler. Mais ce qui me paraît important, c'est que le vin de Bourgogne est un vin qui, en partie lié à ce cépage Pinot et à ce cépage Chardonnay, Pinot pour le rouge et Chardonnay pour le blanc, donne des vins. Enfin, ce sont des vins beaucoup plus sensuels, caressants, qui peuvent se boire un peu plus jeunes et qui sont spontanément plus joyeux parce qu'ils ont une acidité un peu plus grande que les vins de Bordeaux. Les vins de Bordeaux sont des vins qui, en particulier alors à partir du XVIIIe siècle, ce qu'on appelle les New French Clarets, c'est-à-dire des vins qui sont beaucoup plus sombres parce qu'on a des cuvaisons plus longues, qui sont des vins qui demandent du temps avant de devenir souples, et même parfois d'être comme du velours. Il y a d'immenses vins de Bordeaux, mais qui ne se boivent pas, j'allais dire, qui ne se boivent pas pour la soif. Beaucoup de bourguignons, même des très grands vignerons, même si aujourd'hui il y a des vins de Bourgogne extrêmement rares et très très chers, mais il y a toujours cette idée qui revient, je fais du vin pour le plaisir et pour la soif. Je ne connais aucun propriétaire de Bordeaux qui dit cela. Ils font des vins d'immense qualité, qui sont très longs en bouche, qui font la queue de paon, etc., tout ce que l'on veut, mais qui sont des vins de méditation et en général que l'on sert assez modérément lorsqu'on a le privilège d'aller dans ces grands châteaux du Médoc ou des Graves, tandis qu'en Bourgogne, la tradition, c'était de verser assez largement, comme on dit au Clos de Vougeot, au début des banquets de la confrérie du Tas de Vin, bon appétit et large soif. L'expression large soif, elle serait très incongrue prononcée à Bordeaux. Je caricature un tout petit peu, hein, bien sûr, parce que je connais des Bordelais avec qui on a débouché quelques bouteilles quand même au cours d'un repas.
Je sais pas bien. Et la querelle et la distinction peut-être sociologique, elle prend parfois même un tour idéologique. J'étais sidéré de lire dans votre ouvrage une citation de Philippe Solers qui déclarait...
qui est un Bordelais, il faut le dire.
Qui est un Bordelais, bourgeois Bordelais même, je pense.
Grand bourgeois Bordelais.
Dans le magazine Lire, il déclarait donc « J'ai horreur du Bourgogne, c'est un vin de sauce et de sang. Il faut tout de même que les gens prennent conscience et qu'on le sache. Le Bourgogne n'est pas du vin, c'est de la boisson pour sauce. De plus, quand on boit du Bourgogne, on a la terrible sensation de boire quelque chose de saigné, sans compter la lourdeur effroyable du terroir que l'on ressent. Donc pour moi, tous les gens qui aiment le Bourgogne, et le Beaujolais aussi, sont, disons-le, des ploucs. »
Voilà. C'est tout est dit, mais Mauriac, qui se rendait à Dijon et qui est invité au restaurant, lui sert bien entendu du très bon Bourgogne et il dit « qu'est-ce que c'est ?» On lui dit « mais maître, c'est du Bourgogne. »« Ah, bon, j'aurais pas cru, mais quand même je préfère le vin. » Ça c'est l'humour bordelais typique. Hein.
Oui, c'est moins truculent.
C'est moins truculent. Non, mais cette phrase est odieuse de Solers. Hein. Je m'emploie à lui faire regretter tant que je peux. Je la cite à toutes occasions.
J'ai souvenir qu'à un moment, il explique aussi qu'aimer le Bourgogne, en gros, c'est déjà du péténisme. Non c'est...
Quelque chose comme ça, oui. Oui, bien sûr. Oui,
non, mais on sent dans le procès sémantique, le sang, la terre, c'est pas
c'est
propre.
C'est inimaginable. Alors, bon, les bourguignons, parfois, ne sont pas très gentils, mais c'est quand même, ça a plus d'humour. Lorsqu'un bourguignon dit « Ah oui, oui, le Bordeaux, c'est le vin des malades. Ah bah oui, mais nous, on fait le vin des bien portants. » Donc ça,
c'est charmant.
Oui, c'est plutôt charmant. Oui.
Pour conclure, est-ce que vous me permettez de citer la réponse de Bria Savarin?
Oui, bien sûr. Elle est superbe.
Voulez-vous le faire?
Non, non, allez-y. Hein.
Donc, une dame questionnait...
Ça se passe près de l'Institut, d'ailleurs. Ça se passe au Faubourg Saint-Germain. Il est reçu chez une dame de la haute société pour un dîner.
Et elle lui pose cette question-ci. Monsieur le conseiller... disait un jour d'un bout de table... Ah non, bon, je reprends. Monsieur le conseiller disait un jour d'un bout d'une table à l'autre une vieille marquise du Faubourg Saint-Germain. Lequel préférez-vous, du Bourgogne ou du Bordeaux? Madame, répondit d'une voix druidique le magistrat ainsi interrogé, c'est un procès dont j'ai tant de plaisir à visiter les pièces que j'ajourne toujours à huitaine la prononciation de l'arrêt.
Voilà. Et Brillat Savarin était né à Belley, dans, ce qui n'est pas en Bourgogne, mais qui n'est pas très très loin, qui est dans, la, dans le Bugey, donc à quelques dizaines de kilomètres de la frontière bourguignonne. Et je crois qu'il avait, à Paris d'ailleurs, à son époque, à l'époque de Brillat Savarin, on commençait à boire du Bordeaux, mais le Bourgogne était encore tout à fait dominant, hein, puisque Brillat Savarin a écrit son livre en 1825. Le livre est publié en... C'est la physiologie du goût, hein, en décembre 1825. À cette époque, il y a peu de Bordeaux. Sous Louis XV, par exemple, on fait boire du Bordeaux à Louis XV et on le juge passable parce qu'on boit du vin de Champagne, mousseux à l'époque, chez, sous Louis XV, et du Bourgogne, blanc et rouge. Pas très rouge d'ailleurs. Hein. Le Pinot Noir colore moins les vins que le Cabernet Sauvignon ou surtout que le Merlot. Mais et puis on ne faisait pas cuver très longtemps les vins, voire pas du tout avant le XVIIIe siècle. Donc ça donne des vins souvent roses, rosés, mais pas comme le rosé d'aujourd'hui, c'est-à-dire des vins œil de perdrix.
Et aujourd'hui, à l'heure de la mondialisation et de la montée quand même de viticulture. Aux antipodes et qui sont quand même souvent de qualité, est-ce qu'il n'est pas le temps d'arrêter cette querelle?
Non, je pense qu'aujourd'hui, les Bourguignons, les Bordelais, les gens des Côtes du Rhône, les Alsaciens, et puis surtout, et d'autres Européens comme les gens du Chianti ou les Espagnols comme ceux du Jerez ou ceux de la Rioja, ont fait d'énormes efforts pour produire des vins qui sont toujours meilleurs, toujours mieux faits, qui vieillissent bien, en général, il peut y avoir des accidents, mais dans l'ensemble, qui vieillissent bien et qui, de plus en plus, c'est la grande tendance de la viticulture aujourd'hui, ressemblent à leur terroir. C'est-à-dire ressemblent à l'endroit d'où ils viennent. Hein, comme dit un de mes amis œnologues, Jacques Puiset, nous devons produire le bon vin, c'est le vin qui a la gueule de l'endroit et la tripe du vigneron. Donc des vins personnalisés et j'allais presque dire uniques. Et en Bourgogne, on a poussé ce phénomène le plus loin possible avec la pratique des climats, c'est-à-dire de cette élaboration du vin provenant d'un endroit donné, d'une parcelle, sans aucun assemblage avec la parcelle d'à côté ou l'appellation d'à côté. Donc ça apparaît comme une mosaïque très difficile à comprendre. La Bourgogne, en réalité, pour les connaisseurs, c'est quelque chose de merveilleux parce que le Clos de Vougeot, par exemple, qui est une appellation, l'ancien domaine des moines de Citeaux, qui a été partagé au XIXe siècle en beaucoup de propriétaires, donc c'est 50 hectares. Ce qui est la taille d'un château du Bordelais, à peu près. Il y a un château au milieu, d'ailleurs, qui était la cuverie des moines de Citeaux. Et ces 50 hectares sont partagés en 80 parcelles de 80 propriétaires. Donc, le climat, le mot climat s'applique justement à ces terroirs en Bourgogne, terroir viticole. Le climat, c'est le Clos de Vougeot. Mais en réalité, vous avez 80 clos de Vougeot différents chaque année. Puisque chaque vigneron, d'abord, le sol n'est pas tout à fait le même d'une parcelle à l'autre. Et puis chaque vigneron a sa propre technique, sa propre philosophie, sa propre inspiration, puisque le vin est une œuvre d'art, donc on peut parler d'inspiration. Et c'est merveilleux d'avoir 80 vins différents. Alors que,
si on ajoute à ça les millésimes, le plaisir est sans fin.
Le plaisir est sans fin, bien sûr. Alors que ce Claude Vougeot exploité à la Bordelaise, ce serait... Donc on récolte, éventuellement on vinifie les raisins différemment, on fait plusieurs cuvées selon les différentes parties du Clos de Vougeot, et ensuite on assemble et on fait ce qu'on appelle le grand vin. Donc il y aurait chaque année un Clos de Vougeot, grand et jamais raté, donc en plus ou moins grande quantité selon la qualité du millésime, puis un deuxième vin, voire un troisième. Tandis que là, vous êtes dans une espèce de trapézisme sans filet où, lorsque vous avez une parcelle qui peut faire une ouvrée, c'est 428 mètres carrés, ou un peu plus, peut-être 1000 mètres carrés, 3000 mètres carrés, vous faites quelques barriques. Une barrique, c'est 228 litres en Bourgogne. Vous faites quelques barriques et, je dirais, vous avez droit à l'erreur, bien sûr, mais vous pouvez faire des vins moyens, des bons vins, des vins exceptionnels, mais c'est le millésime et votre talent personnel et la manière dont vous conduisez la vigne. Donc ça a quelque chose de beaucoup plus spontané et moins fabriqué. qu'à Bordeaux. C'est encore une différence, mais je ne critique pas le modèle bordelais, parce que c'est vrai que, compte tenu de ce savoir-faire de l'assemblage à Bordeaux, qui est le même d'ailleurs qu'en Champagne, en Champagne aussi on assemble, vous avez beaucoup moins de vins médiocres.
Dans les caractères qui ont fait la renommée de la Bourgogne et son rayonnement, et celui de la France, il n'y a pas seulement les vins, il ne faudrait pas qu'on oublie aussi que c'était un foyer incroyable de la chrétienté médiévale, avec des figures de haut vol, dont la principale est probablement Saint-Bernard de Clairvaux, pour en rester à la lettre B.
Oui, Bernard de Clairvaux, c'est le... comme c'est un personnage hors du commun, absolument, avec à la fois un charisme absolument extraordinaire, une grande bonté dans certains, qui transparaît dans certains de ses écrits ou certains de ses actes, et en même temps une dureté d'esprit. Je dis bien d'esprit, c'est-à-dire qu'il pratiquait l'esprit dur et le cœur tendre, alors qu'aujourd'hui on est plutôt dans l'esprit tendre et le cœur mou. Donc c'est quelqu'un qui a dominé son époque incontestablement, à la fois la vie religieuse, quand même le nombre d'abbayes qui ont été créées sous l'impulsion de Saint-Bernard, qui sont des filles de Clairvaux, puisqu'il a commencé, enfin il est rentré au monastère, lui est né à Fontaine-lès-Dijon, il est rentré au monastère à Cîteaux, et très vite, le père abbé, peut-être parce que d'ailleurs il prenait un peu trop de place dans le monastère de Cîteaux, l'a envoyé créer une nouvelle abbaye, perdue dans les... Alors c'est en Champagne, aux frontières de la Bourgogne, qui est Clairvaux, et après cette abbaye a entraîné la fondation de dizaines et de dizaines d'abbayes filles un peu partout en Europe. Donc l'aventure cistercienne, elle doit beaucoup, beaucoup à Saint-Bernard, qui en même temps a dominé aussi la scène politique. Les rois venaient le consulter. Il aurait pu très facilement devenir un grand ministre du roi de France. Il aurait pu devenir un grand évêque. Il aurait pu devenir pape même. Mais c'était pas sa vocation. C'était pas son choix. Pour lui, l'idéal, il l'écrit bien souvent, ça aurait été de rester dans son monastère et de pratiquer la prière, le travail manuel, etc. Mais il se sentait une autre mission. Donc on l'a beaucoup critiqué, en particulier à cause des croisades aussi. Replacé dans le contexte de son époque, c'est un personnage réellement éblouissant.
Croisade, c'est la seconde croisade si je ne me trompe pas. Prêché à Vézelay.
À Vézelay, oui, c'est ça.
Mais aussi une attitude très dure envers les cathares, les albigeois.
Alors, oui. Sauf
alors là, pour le coup, vous le défendez totalement.
Là, je le défends totalement parce que, d'abord, le catharisme n'a pas eu beaucoup de succès en Bourgogne, ni même dans le nord de la France, alors que l'hérésie cathare, albigeoise, a eu un assez grand succès dans le midi de la France et surtout dans le sud-ouest français. Aujourd'hui, alors dans l'espèce de renaissance des identités, en particulier occitanes, dans le sud de la France, on a mythifié un peu cette hérésie cathare. Et on a fait de Montségur, par exemple, un très très haut lieu, là aussi, de la résistance à la puissance monarchique, à une trop grande puissance de l'Église, etc. Bon, les cathares, il faut savoir quand même que c'était des gens qui étaient attachés à des idées qui ne sont pas très, très éloignées aujourd'hui de Daesh. Ce sont de vrais talibans, les cathares, et qui, à la différence des musulmans, qui ne sont pas dans cet état d'esprit, croyaient profondément à la prédestination. Donc on était sauvés ou on ne l'était pas. Et il y avait les purs et les autres. Les parfaits, pardon, et les autres. Et il y avait une attitude face à la vie, face à l'action, qui est profondément mortifère et profondément pessimiste et négative. Donc je pense que lutter contre le catharisme, et il n'y a pas eu tant de morts, tant de martyrs cathares que ça, on les a un peu forcés à se convertir, il faut bien reconnaître, mais la lutte contre le catharisme est quelque chose qui, je crois, bon, de toute façon, à mon avis, ça n'aurait pas eu un immense succès, parce que fondamentalement, ce qui va devenir la France, ce qui est déjà la France, est habité par une vision optimiste des choses et par la vision positive des œuvres et de l'action. Donc, cette espèce de pessimisme qu'on retrouve un peu dans le calvinisme, d'ailleurs. Hein, le calviniste est un lointain avatar de cette tendance qui existe dans beaucoup de civilisations et qui vient, en l'occurrence, pour ce qui est des cathares, qui vient d'Orient, puisque c'est venu des confins de l'Iran et de l'Indus, et de la vallée de l'Indus. Donc, c'est le manichéisme. Et qui est passé par les Bogomiles du sud de la région des Balkans et de la mer Noire, et qui arrive un peu fatigué, mais quand même, ça a eu un très grand succès en France, et en particulier dans le sud de la France, qui était moins marqué par cette association très étroite qu'il y avait dans le nord de la France entre le pouvoir politique et l'attachement au magistère de l'Église catholique. Et le Midi était moins attaché parce que c'était loin de Paris. C'est une des raisons. Enfin, c'est une affaire bien compliquée. Mais en tout cas, la Bourgogne n'a pas été touchée par cette hérésie et elle n'est jamais touchée par le pessimisme au cours de son histoire. C'est une des caractéristiques de la culture bourguignonne que d'être plutôt optimiste et joyeuse.
Et d'incarner, en quelque sorte, si vous me permettez cette répétition, d'incarner une spiritualité, justement, de l'incarnation des bonnes choses, de la bonne chair, ce refus de la rupture entre le spirituel et le sensuel. On a l'impression que c'est une sorte de fil rouge qui traverse votre livre, cette volonté de
réconcilier les
choses de l'esprit et les heures du corps.
Oui, tout à fait. Les Bourguignons. Alors, est-ce que c'est quelque chose de très ancien? Je ne crois pas que ça date de Saint Bernard. L'optimisme fondamental face à la vie, oui, ça existe en Bourgogne.
Oui,
mais c'est, je dirais, viscéral dans le christianisme. C'est fondamental dans la religion chrétienne, et en particulier dans sa voix et sa version catholique. Cette joie de vivre portée en bandoulière, je pense qu'elle est un peu plus tardive. Si j'essaye d'analyser, parce que c'est les Bourguignons parlent volontiers de cet aspect de leur culture et en sont fiers, même encore aujourd'hui, et en particulier, bien entendu, dans le monde du vin. Mais quand on cherche à savoir d'où ça vient, je pense que ça vient de l'époque des grands ducs d'Occident, des grands ducs de Bourgogne, du Grand-Duché, donc fin du Moyen-Âge, où la cour de Bourgogne est extrêmement brillante, attire énormément d'artistes, de poètes, on y chante, on y danse, c'est là où on a inventé l'art des banquets. Les banquets à la cour de Bourgogne à Dijon, quand on voit d'ailleurs la taille de la cuisine, on peut l'imaginer, étaient absolument somptueux, et je pense plus somptueux que ceux du roi de France à cette époque. Une partie de l'histoire de la gastronomie française, y compris la gastronomie de cour, est liée à la Bourgogne, puisque la Varenne, alors bien plus tard, au XVIIe siècle, est un cuisinier bourguignon et c'est l'inventeur de la nouvelle cuisine française du règne de Louis XIV. Mais à la cour de Bourgogne, donc cette joie de vivre éclate de partout, et je pense que c'est là où est né ce penchant de l'élite bourguignonne, en particulier des écrivains, des artistes, à exprimer par tous les moyens possibles le plaisir de l'existence, ce qui n'empêche pas la piété et ce qui n'empêche pas l'amour de Dieu, voire la pénitence à un moment ou à un autre. Mais le plaisir et la pénitence ne sont pas contradictoires, ça dépend des moments. On le voit bien dans la vie de Bossuet. Bossuet était un grand amoureux du vin, et Bossuet ne se privait jamais de vin. Il fait venir du Volnay, il espère en boire jusqu'à sa mort, et qu'on en servira d'ailleurs après sa mort aux gens qui viendront à son enterrement. Enfin, tout ça est assez... alors que Bossuet, on l'imagine plutôt austère, faisant des remontrances à Louis XIV, et Madame se meurt, Madame est morte. Mais non, mais par ailleurs, il avait une vraie joie de vivre. Alors évidemment, il y a des personnages haut en couleur de la littérature bourguignonne, comme Bussy-Rabutin, comme Piron, qui eux sont volontiers très très lestes et sont légèrement libertins et, disons, ont un rapport moins étroit que d'autres avec la religion.
Oui, parmi ces auteurs, oui, c'était Vivant Denon et d'autres...
Yvan Denon, qui est le créateur du Louvre, l'inventeur du Louvre.
Qui sont des personnages qui, dans leur libertinage, ont moins, on a le sentiment, cette petite dimension perverse qu'on peut retrouver par ailleurs de jeu intellectuel. Là, c'est plutôt de la franche santé.
Voilà, c'est ça. Oui, c'est plutôt rabelaisien. Oui, c'est la culture rabelaisienne qui... Rabelais n'est pas bourguignon, il est de la Loire, mais il n'y a Je crois qu'il y a ce même esprit en Touraine qu'en Bourgogne. Il est lyonnais en même temps, et c'est vraiment l'esprit lyonnais, du moins l'esprit populaire lyonnais, celui de Guignol. Alors que c'est pas, pour faire un peu de géographie culturelle tirée par les cheveux, hein, pardonnez-moi, mais c'est pas ce qu'on retrouve quand on est dans une ville comme Nîmes, ou dans une ville comme Saintes ou Angoulême, où il y a une tradition beaucoup plus austère. Qui est sûrement très ancienne, et qui explique que le protestantisme ait eu un certain succès à l'époque de la Réforme, mais qui crée une certaine retenue. Voilà. En Bourgogne, on ne se retient pas. Et il y a même vous savez, rabutiner, c'est faire des bons mots au détriment des autres, mais toujours avec une pointe d'humour. Et ça, c'est quelque chose de très très français. On le voit bien, les grands humoristes français, je pense à des proches qui mériteraient d'être bourguignons, ne résistent pas au plaisir d'un bon mot, même si ça doit être méchant, mais c'est une méchanceté toujours teintée d'affection. Donc celui qui fait l'objet de la plaisanterie n'est jamais...
C'est peu acide.
Voilà, c'est assez acidulé quand même, hein. C'est même piquant comme la moutarde qui est très bourguignonne, mais je dis qu'elle est à l'article moutarde, que ça, c'est vraiment un condiment qui va très très bien avec l'esprit bourguignon. Ça, c'est d'origine médiévale, mais c'est parfaitement bourguignon, c'est piquant et en même temps onctueux. Voilà, je pense que la France aurait intérêt, dans son ensemble, à cultiver un petit peu cet esprit, à ne pas se prendre trop au sérieux, à prendre la vie du bon côté. C'est même malgré les difficultés du temps, malgré les problèmes qui peuvent se poser dans le monde, ne couvrons pas constamment la tête de cendre. Ou si on le fait, il faut le faire dans le secret de son oratoire, mais pas quand on est en public.
Raisonnement que vous étendez d'ailleurs même à la sphère politique, puisqu'il y a une très belle, un panégyrique, mais je crois que c'est le cas, du fameux chanoine Kir.
Oui, alors je ne sais pas si chanoine Kir laissera une grande trace dans l'histoire politique française par son action politique, ni même dans la ville de Dijon, parce que il y a des quartiers qui ont été construits sous Kir qui ne sont pas très glorieux, qui sont des grands ensembles, mais on me dit qu'il était forcé, qu'on lui a forcé la main parce que c'était la doctrine, il fallait construire des grands ensembles pour loger tout le monde. Mais ce qui restera incontestablement, c'est sa truculence, c'est son humour, qui était assez comparable à celui du général de Gaulle, sauf qu'il ne s'aimait pas du tout. Et que le général, qui était pourtant catholique, mais ne supportait pas ce chanoine qui lui envoyait des plaisanteries tant qu'il pouvait, qui disait ce qu'il voulait à l'Assemblée nationale et, au fond, ne le respectait pas assez. Donc le général qui avait lui-même une forme d'humour assez développée, mais il n'aimait pas qu'on se fiche de lui. Donc l'humour, c'était lui qui s'en servait vis-à-vis des autres, mais pas, je ne pense pas que les autres aient pu s'en servir assez facilement à son égard. Chanoine Kir, lui, cultivait à loisir ce côté très très bourguignon truculent. Et bien entendu, il se tenait bien à table et son verre n'était jamais vide.
Et à propos de De Gaulle, il disait « Se sauver quand ça va mal, c'est sa tactique ». C'est rude.
Oui, il faisait partie de, je crois que c'était les indépendants et paysans, enfin en tout cas de cette démocratie chrétienne, où il était en même temps très, très social, hein, mais qui ne supportait pas bien le gaullisme.
Oui, précisons que ce n'était pas une saillie péténiste, mais qu'il était lui-même...
Bien sûr.
Avéré, ce qui lui permettait de...
Oui, tout à fait. Non, puis il avait une liberté de ton qu'on trouve plus rarement aujourd'hui et une jubilation dans sa façon de s'exprimer. Il cultivait aussi l'accent bourguignon, mais qu'on trouve rarement aujourd'hui, cette truculence dans la vie politique.
Il a presque disparu. Vous me permettez une autre citation du chanoine ?
Je vous en prie, avec plaisir.
À propos du courant radical, dont l'austérité devait quand même le révulser, dans radicalisme, il y a la racine radis, rouge à l'extérieur, blanc à l'intérieur, et toujours près de l'assiette au beurre.
Voilà. Oui, ça c'est des bons mots du chanoine Kir, il y en a des quantités. Hein. Même certains, en plus, ils pouvaient être volontiers assez lestes. Hein. Ils ne se privaient pas de traiter les gens de cocus ou tout comme ça en public. Hein. Ça ne le gênait absolument pas.
Oui, ce que je comprends, à un adversaire qui devait se moquer de ses conditions de chanoine, il dit « Mais pourquoi donc n'es-tu pas marié pour pas de cocu comme toi, mon vieux ?»
Voilà, c'est ça.
le monde a bien changé. Nous parlions de cette tradition de libertinage sain et plein de santé en Bourgogne, une tradition qui a perduré certainement, comme vous le disiez, et qui nous amène à parler d'une autre figure, celle de Colette, la génue libertine. Comment est-elle perçue? Parce que Colette, on sait qu'elle est bourguignonne, d'accord, mais on la voit quand même comme un archétype aujourd'hui un peu parisien.
Elle a vécu beaucoup à Paris, elle est venue jeune à Paris, mais elle a tout, d'abord,
elle représente même.
Elle a toujours gardé beaucoup d'affection pour son terroir d'origine, qu'elle a Puisaye, puisqu'elle était née à Saint-Sauveur en Puisaye, où elle a passé sa jeunesse. Elle a beaucoup utilisé ses souvenirs d'enfance dans toutes ses œuvres, dans les premières, mais aussi, elle y est revenue à plusieurs reprises dans sa vie. Elle a conservé son accent bourguignon, elle n'avait pas sa langue dans sa poche, et là, elle cultivait aussi cet esprit piquant que j'évoquais. Elle est très proche de Bussy Rabutin et de Piron par certains de ses écrits. Alors, elle entretenait avec la religion un rapport assez distant, mais avec le libertinage, un rapport très, très étroit. Je crois que c'était une grande intellectuelle, évidemment, une grande artiste, un grand écrivain, mais cultivant cette sensualité qui manque, je trouve, vraiment aujourd'hui dans la littérature. Et c'est pourquoi, même si certaines œuvres de Colette sont un peu passées de mode, il faut vraiment se replonger dans cette langue, en plus d'une grande limpidité. On peut l'écouter aussi, puisque maintenant, grâce à Internet, on peut avoir plein d'interviews, d'entretiens de Colette à la radio. Et c'est étonnant d'entendre cette voix bourguignonne qui sort d'un autre siècle. Parce que même les bourguignons de la campagne, il y en a très peu qui parlent comme Colette parlait. Et elle ne supportait pas qu'on se moque de son accent.
Il a certainement raison. Dans la lettre C, initialement, je ne voulais pas évoquer Colette, mais quelque chose de beaucoup plus simple et dense, c'était le mot cocotte.
Oui, la cocotte, c'est pas le... il n'y a pas de rapport avec Colette, qui d'ailleurs n'était pas une cocotte, ni une mondaine. Non, c'est la cocotte minute. Seb, la cocotte minute est bourguignonne. Moi, je ne suis pas un immense défenseur de cet instrument de cuisson, parce que je pense qu'il faut donner du temps au temps, comme disait quelqu'un qui a été un élu bourguignon longtemps, élu du Morvan. C'est François Mitterrand, comme vous le savez, qui n'était pas bourguignon d'origine, qui d'ailleurs n'a pas apporté grand-chose à la Bourgogne, mais je pense que la cuisine, pour revenir à cocotte, la bonne cuisine demande du temps. Et on ne fait pas un bœuf bourguignon en une demi-heure, même si avec la cocotte dite minute, on peut arriver effectivement à réduire considérablement le temps de cuisson et attendrir les viandes. Je pense que les plats en sauce, en particulier le bœuf bourguignon, ce sont des plats méditatifs qui ont besoin de rester au coin du feu, de mijoter pendant très longtemps pour être parfaitement réussi. Parce que c'est à ce moment-là que toutes les saveurs des ingrédients se fondent. Le brin de thym, la feuille de laurier, les carottes, les oignons, le clou de girofle, la lie du vin et bien entendu l'osmazome, c'est-à-dire l'essence même de ce qu'il y a dans la viande qui crée une saveur synthétique qui est l'âme même de la cuisine française. Nous avons une cuisine, qu'elle soit rustique ou de haut vol, qui aboutit à des plats symphoniques et mariant des ingrédients variés, mais qui finalement crée une saveur commune, et laquelle saveur commune appelle un liquide identique, enfin un liquide synthétique lui aussi, et symphonique, qui est le vin. Et cette cuisine bourguignonne traditionnelle est une cuisine qui est faite pour se marier avec le vin. Ça, c'est un des apports du terroir bourguignon à la haute cuisine française et à ce qui a été classé au patrimoine de l'UNESCO, c'est-à-dire le repas gastronomique des Français, qui comporte une spécificité très importante, c'est le mariage intime du mets solide avec le vin. Chaque mets appelle un vin. Et si on veut mettre en valeur un beau vin, eh bien on le déguste et on se dit, bon, qu'est-ce qui pourrait aller avec ce vin? Est-ce que c'est une poêlée de cuisses de grenouille, par exemple, ou une douzaine d'escargots à la bourguignonne, ou un jambon persillé, ou une pochouse, qui est la bouillabaisse de rivière bourguignonne, etc. Et ce mariage a été poussé très très loin en Bourgogne. Il se pratique toujours d'ailleurs au Clos de Vougeot, mais dans bien d'autres endroits en Bourgogne, mais en particulier au Clos de Vougeot, qui est le siège de la confrérie des Chevaliers du Tadevin, et où ont lieu une vingtaine de banquets par an qui durent fort longtemps, 4, 5, 6 heures, et où on boit des vins merveilleux. Sans modération, mais comme ça dure longtemps, qu'on chante, qu'on mange en même temps, personne ne sort de table en mauvais état. Et on n'oublie pas les moments qu'on a passés qui créent aussi une forte convivialité. C'est-à-dire qu'on a envie d'embrasser tous les 550 personnes qui participent à ces banquets à la sortie.
Est-ce qu'on ne pourrait pas pousser le raisonnement et se dire qu'on peut aussi marier des livres avec des vins ? Et pour les auditeurs qui voudraient se plonger, et je souhaite qu'ils le fassent dans votre livre, que leur conseillerez-vous de boire au fil de la lecture pour ajouter les papilles sont excités par la lecture de votre livre.
Oui, comme je traite à peu près de tous les vins de Bourgogne, du Chablis au Pouilly-sur-Loire, Pouilly-Fumé, Pouilly-sur-Loire, au Pouilly-Fuissé, et en passant par tous les grands crus de la Côte d'Or, je pense qu'il faut boire, en lisant les articles concernant les vins, qu'il faut boire le vin dont il est question. Donc il faut avoir une bonne cave et puis goûter tous les vins, en commençant par A comme Aligoté, comme vous l'avez dit, et en terminant, alors le dernier doit être Vaunon Romanée, je pense. Ça doit être l'un des derniers, c'est ça, oui. Donc, et il y a vraiment de quoi boire.
Clos de Vougeot, juste après.
Vougeot est juste à Vougeot. Ben voilà, on termine par un Clos de Vougeot, ce qui est très bien. Aligoté, en plus, c'est dans l'ordre. L'Aligoté est un vin blanc sec pour la soif. Et le Clos de Vougeot de grand millésime de grand vigneron est un vin qu'il faut prendre le temps de boire et qu'il faut retourner cette fois dans sa bouche avant de l'avaler. Faire caresser ses papilles.
À tarif croissant également.
Malheureusement, c'est ça, c'est le problème. C'est que les vins de Bourgogne sont rares. Sont même très rares pour les grands vins et qu'ils atteignent aujourd'hui des prix invraisemblables, quand on peut en acheter, parce que la plupart des grands vignerons, je dirais qu'ils sont maintenant une bonne cinquantaine, voire une centaine des grands vignerons, surtout ceux de la Côte d'Or, travaillent à guichet fermé, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de vin à vendre, il faut être allocataire, on est sur la liste et on a le droit chaque année à 6 bouteilles ou 12 bouteilles, au mieux 24, et on achète ce que le vigneron accepte de vendre. Et on ne peut pas refuser. Si on refuse, on est rayé de la liste. Bon, c'est triste, mais voilà. Donc, et malheureusement, la plupart des grands Bourgognes sont bus à l'étranger. Parce qu'il y a finalement peu de Français qui acceptent de dépenser beaucoup d'argent dans le vin, même ceux qui en ont les moyens. Alors qu'il y a des étrangers, des Anglais, des Américains, des Suisses, des Allemands qui acceptent d'investir dans le vin et qui trouvent un immense plaisir et de partager avec leurs amis. Et bien entendu, il y en a au Japon, il y en a en Chine maintenant, et qui ne sont pas nécessairement des nouveaux riches. Il y a quelques nouveaux riches en Russie qui mettent du Coca-Cola dans leur Vaunon Romanée. Ça existe, mais c'est rarissime. Et il y en aura de moins en moins. Il y a aujourd'hui de plus en plus de grands connaisseurs dans le monde et qui s'intéressent au grand vin.
Nous contenterons donc pour notre part, en tout cas pour la mienne, du Pastougrain et de la Ligoté.
Ah oui, il y en a de bons. Le Pastougrain, ça dépend des années. Oui. Il y a des années un peu rudes. Mais les années chaudes, par exemple, le Pastougrain peut être merveilleux. J'ai le souvenir de Pastougrain 1976, exceptionnel.
Écoutez, merci du tuyau. Je retiendrai qu'il faut attendre les années chaudes, parce que l'avantage du Pastougrain, c'est qu'on peut le prendre après la récolte. Il en reste.
Il en reste un peu, oui.
En tout cas, merci d'avoir éveillé nos sens, nos papilles, nous donner envie de retrouver, redécouvrir cette merveilleuse Bourgogne. Et c'est un voyage qui vous coûtera infiniment moins cher qu'une bouteille de Clos Vougeot, puisque l'ouvrage de Jean-Robert Pitte, Dictionnaire amoureux de la Bourgogne, est disponible aux éditions Plomb pour la modique somme de 24 euros. Boire du Bourgogne, c'est compliqué, mais en parler et en rêver, ça reste gratuit, ou presque. Merci beaucoup Jean-Robert Pitte.
Merci à vous. Thank you.